Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Il y a quelques années, mon père a eu un cancer. Il nous en a tout de suite parlé, à mes sœurs et moi. C'était une nouvelle extrêmement triste, mais au moins j'ai pu être là pour lui, et surtout, un soutien pour ma mère, elle qui ne montre jamais de faille. Quand elle était en pleurs au téléphone, je pouvais pour une fois lui rendre l'appareil. Mon père en a parlé très naturellement à ses amis aussi. C'était très triste, mais au moins il était entouré, et toute la famille aidée. Parmi ses proches, mon père avait un ami qui avait lui aussi eu un cancer quelques années plus tôt. Mais lui, au contraire, n'en avait parlé à personne. Il avait même demandé à sa compagne de ne pas en parler non plus. Et ils avaient traversé cette épreuve seuls. Ça m'a beaucoup interloquée. Pourquoi cacher cette maladie? Comment est-ce possible qu'une honte ou qu'un tabou puisse être logé à cet endroit-là? En creusant, je me suis rendu compte que l'ami de mon père n'est pas un cas isolé. Le cancer est un sujet tabou pour un homme sur deux, selon un sondage qui a été mené par un opérateur de santé. Et plus les hommes sont jeunes, moins ils vont avoir tendance à en parler. À l'occasion de Movember, le mois de sensibilisation des cancers masculins, et parce qu'il n'y a rien que l'on aime plus chez Louis que de lever le voile sur des tabous, quels qu'ils soient, on vous propose un épisode qui a reçu le soutien de la Cité des sciences et de l'industrie. Jusqu'en août 2023, vous pouvez y découvrir Cancer, une grande exposition sur les dimensions scientifiques, sociales et psychiques de cette maladie. C'est l'histoire de Jonathan et de sa compagne Loïs, au micro de Capucine Rouault. Je suis Louise Emerlet, bienvenue dans Passage.
Moi, je m'appelle Jonathan, j'ai 33 ans et j'habite à côté de Nancy, à Essey-lès-Nancy exactement.
J'ai 26 ans, je travaille en tant que secrétaire à l'Institut de cancérologie de Lorraine.
Ma vie avant le diagnostic, elle est une vie d'un jeune de 32 ans qui profite des moments simples de la vie, qui est en couple, qui voit ses amis les week-ends, qui travaille la semaine, qui chante un petit peu parce que c'est un petit peu ma dynamique aussi dans ma vie, la musique. Une vie très, très simple, rangée, posée.
Ça fait 8 ans que je suis avec Jonathan, on vit ensemble, on est un couple lambda avec des projets, une routine et on saisit chaque opportunité pour voyager, pour partir en week-end, voilà, on entretient notre couple, on fait des sorties au restaurant, au cinéma, un peu une routine de tra-tra quotidien, on va dire ça comme ça. On a pour projet de construire une maison et puis d'avoir des enfants. Voilà, on se projette dans l'avenir.
Alors, on est au début de l'année 2021. Je ressens une fatigue, voilà, comme si on te puisait de l'énergie. Je me suis dit, bon voilà, c'est le changement professionnel, changer effectivement de poste à l'intérieur même de mon travail, et que tout allait revenir, on sortait de l'hiver, voilà, je vais redémarrer sur le chapeau de roue. Ma fatigue s'accentue de jour en jour, avec des douleurs aussi au niveau de l'aine, au niveau du bas-ventre. Voilà, je croise mes jambes, je marche, je m'assois, je me lève, j'ai des douleurs. Et je fais pas le lien avec ma fatigue. Je décide quand même un soir de me palper au niveau du testicule, parce que je remarque quand même que la douleur, elle se propage depuis le testicule. Et je me palpe et je ressens ce soir-là une grosseur sur le testicule droit, avec un aspect que je dirais d'un caillou. Et je me dis, là, il y a quelque chose de quand même pas normal.
Donc, il me demande de toucher son testicule pour confirmer qu'il y a bien quelque chose d'anormal. Donc, ce que je fais. Et effectivement, il y a une boule, une grosseur qui est dure et qui n'est pas censée être là. Donc, je lui dis d'aller consulter parce que, voilà, je préfère... Mieux vaut prévenir que guérir. Je préfère ne pas laisser les choses traîner quand on découvre qu'on a quelque chose d'anormal. Voilà, plutôt aller consulter, même si c'est pour rien, mais au moins faire vérifier par un professionnel.
Je fais une petite rétrospective de mes jours passés, ce que je me suis fait mal à un moment donné. Je ne m'inquiète pas outre mesure. Dans les jours qui suivent, je reçois donc rapidement un rendez-vous avec mon médecin traitant. Il fait lui-même une palpation et ressent aussi effectivement une grosseur qui est confirmée. On évoque effectivement la torsion, on évoque une inflammation, mais à aucun moment on évoque le cancer. À partir de ce moment-là, tout est allé très vite, puisque ce médecin traitant m'a programmé un rendez-vous d'échographie pour le testicule. Je me suis rendu à cette échographie en me disant, bon voilà, ça va être une échographie, ça va être un moment à passer pas sexy, si je peux me permettre, parce que bon, ben voilà, on va rarement se mettre à nu comme ça devant un inconnu et se faire échographier le bas-ventre et le sexe. C'est plutôt gênant dans ces moments-là. On est au moment d'échographie, je suis allongé sur une table. J'ai à ma droite un écran d'échographie. J'ai une personnelle soignante qui me fait donc l'imagerie. Je suis nu et puis elle me passe son objet d'échographie sur la zone testiculaire. C'est pas le moment le plus agréable parce que je suis plutôt pudique. Je me tourne vers l'écran. C'est un moment pas facile parce qu'on ne parle pas, parce qu'elle me rassure quand même un petit peu que voilà, c'est un examen qu'il faut passer et puis c'est tout. Et là, elle me dit effectivement qu'il y a quelque chose de pas normal. Et je tourne ma tête vers l'écran et je comprends effectivement, sans être médecin, qu'il y a effectivement une différence entre le testicule gauche et le testicule droit. Elle décide rapidement d'appeler un médecin de l'imagerie. Je me retrouve seul dans cette salle. Donc les 3 ou 4, 5 minutes, 6 minutes sont très très longues. Le médecin arrive et là j'entends, pendant que je me rhabille, ça a l'aspect d'une tumeur. Quand j'entends ça, moi, tumeur, c'est cancer, c'est mort, et je fonds en larmes et je dis, voilà, vous avez dit tumeur. Et là, le médecin se dirige vers moi et me dit, oui, il faut qu'on fasse des examens complémentaires.
À ce moment-là, moi, je suis toujours à mon travail, donc il m'appelle en pleurs déjà. J'arrive pas à y croire, en fait. Je suis estomaquée. J'ai même pas les mots pour le rassurer. Et le peu de mots qui sortent, c'est comme si je suis un robot. Et c'est en même temps pour me rassurer moi. J'arrive pas à le calmer. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à me rendre compte de la situation, comme si je suis dans le déni.
Quand j'entends tumeur, je suis déjà dans un autre monde, je suis dans un cauchemar, c'est ma tête qui est prise en étau. Waouh, est-ce que j'ai entendu tumeur? Tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, les hôpitaux, les médecins, les blouses blanches, tout ce qui touche au corps médical me fait peur et me crée vraiment des angoisses. C'est un vrai sujet chez moi et je crois que j'en ai pris conscience au moment où j'ai dit à ce médecin, je ne ferai pas le scanner tout de suite, j'ai trop peur, je suis claustrophobe, il y a une injection, j'ai pas envie d'avoir l'injection, etc. Je savais de quoi, quel scanner il s'agissait. Et il me met la main sur l'épaule et me dit, Jonathan, il va falloir y aller, il faut pas perdre de temps, si c'est une tumeur, il faut qu'on sache s'il faut soigner ou pas. Je passe ce scanner difficilement avec une équipe médicale qui est autour de moi pour me rassurer. Je suis vraiment dans le, euh, dans le nouveau pour moi, dans tout ce que je ne voulais pas aborder un jour dans ma vie. Et j'ai peur et j'angoisse et je stresse et je fais des crises d'angoisse et je fais des crises de spasmophilie et j'ai pas ma place ici et j'ai envie de partir. L'urologue me dit effectivement qu'il y a quelque chose d'anormal et m'explique que sur la tumeur testiculaire, on ne peut pas faire de biopsie. On est obligé de retirer le testicule et de l'analyser. Qu'il soit bénin ou malin, on est obligé de passer par l'orchidectomie. Donc c'est un mot nouveau que j'apprends. L'orchidectomie qui consiste donc à l'ablation du testicule pour l'analyser. Le ciel me tombe sur la tête. Je suis confronté à une deuxième peur, c'est l'opération, c'est être endormi. C'est horrible.
Pour moi, c'est un choc lorsque l'on nous dit que Jonathan va devoir se faire opérer et enlever le testicule. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Je me dis comment il va vivre l'opération, comment il va y réagir. Et moi, je l'encourage à se faire opérer puisque de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter et il aura pas le choix pour pouvoir analyser la tumeur et savoir si c'est bien un cancer dont il s'agit ou si c'était juste une tumeur bénigne. Ça me rassure qu'il y a un protocole à suivre et que ça va nous permettre de savoir où on en est, qu'est-ce que Jonathan a et qu'il puisse être traité.
Je demande est-ce que l'opération soit faite en local. J'ai envie de sortir du bureau. Enfin, je suis vraiment dans le déni à ce moment-là. Je ne veux pas. Et l'urologue insiste sur le fait que plus les jours passent et plus on perd des temps, on risque d'aggraver le problème. Il m'accorde au bout de 10 minutes de débat une semaine supplémentaire en me disant voilà, je vous laisse 15 jours, mais dans 15 jours, il faut absolument qu'on opère. Sinon, vous engagez à prendre un risque. On est là au 15 juin et donc l'opération est programmée le 2 juillet. Quand on me dit qu'on va me retirer le testicule, je suis déjà très choqué par l'opération que je vais subir. Et c'est qu'après que je me pose des questions sur on m'enlève le testicule, est-ce que ça va impacter ma sexualité, est-ce que je vais garder ma capacité érectile, est-ce que je vais toujours éjaculer, est-ce que je vais avoir du plaisir, est-ce que je vais avoir des rapports sexuels normaux. C'est des questions qui me rêvent rapidement, mais après ce rendez-vous avec l'urologue. Je suis un sujet jeune, j'ai 32 ans et l'urologue m'explique comment va se dérouler l'opération. Et il me propose également de remplacer donc le testicule qui va être enlevé par une prothèse. Il me propose soit de l'installer tout de suite, soit de patienter et de faire une autre opération pour mettre cette prothèse. C'est une prothèse qui est purement esthétique, hein, qui fait le job juste esthétique. Et je décide de profiter de l'opération pour la placer. On est le jour J, le 2 juillet au matin. Loïs m'accompagne à la clinique pour me faire opérer. C'est un moment pour moi grave parce que j'ai extrêmement peur de me rendre à cette clinique et de me faire opérer. Et je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je verrai Loïs. Je ne me renseigne pas sur l'orchidectomie, mais l'urologue m'explique que l'orchidectomie et l'ablation donc du testicule ne se fait pas en retrait par les bourses testiculaires, mais comme une césarienne, donc une incision donc au niveau de l'aine. Donc on ressort le testicule par ici et on en profite pour remplacer une prothèse par le même orifice. Je me fais opérer, je me réveille, je suis vaseux, je me demande ce qui m'est arrivé et puis je n'ai aucune douleur au niveau du bas-ventre. La douleur arrive rapidement quand même au bout d'une heure. Je sens ce pansement sur le bas-ventre, je ne touche pas. J'ai un rapport déjà à mon corps qui est dans l'évitement. Je veux pas savoir ce qu'on m'a fait en bas. Je ne regarde pas. Je sais que mon corps a changé. J'ai peur de voir de quelque chose de différent. J'ai plus de sensations au niveau du bassin. J'ai plus de sensations au niveau des testicules, au niveau du toucher. J'ai peur de palper. Est-ce que c'est caoutchouteux? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Esthétiquement, est-ce que y a un changement? Je m'éloigne du truc. Je rejette quoi. J'ai rendez-vous chez l'urologue 2 semaines après ce premier rendez-vous. Il doit me dire si l'analyse donc du testicule est bénin ou malin. Il entre dans le bureau et je suis déjà installé avec Loïs à son bureau. Il me dit naturellement avec bienveillance, c'était sûr, on n'avait pas de doute concernant cette tumeur. C'est bien une tumeur maligne. Voilà, je suis atteint d'un cancer. Moi, j'ai une atteinte donc ganglionnaire. C'est-à-dire que le cancer se propage déjà dans la chaîne ganglionnaire. et pourrait atteindre potentiellement d'autres organes. J'aurais jamais pensé à 32 ans être atteint d'un cancer, être arrêté en plein vol par cette maladie-là. J'avais dans mon entourage des personnes qui ont été atteintes d'un cancer. Je connais le cancer du poumon, je connais le cancer du sang, je connais le cancer des os, etc. Mais le cancer du testicule, pour moi, j'en avais jamais eu entendu parler, quoi. J'apprends donc que je dois entamer un protocole de chimiothérapie. Je suis mis rapidement en relation avec un oncologue cette fois-ci. Je suis impressionné par cet oncologue qui est spécialisé dans le cancer justement du testicule. Je suis toujours accompagné de Loïs. Il m'explique avec un schéma comment va se passer la chimiothérapie, le protocole, les semaines. Il me dit que je vais galérer, que ça va être dur, difficile, tant physiquement que moralement. Je pose des questions, je lui demande s'il y a de nombreuses personnes qui sont atteintes du cancer du testicule, pourquoi moi ? Il me répond à mes questions, il me dit que c'est un cancer qui est rare, mais qui se guérit plutôt bien, mais qu'en revanche, il fallait attaquer très fort sur ce type de cancer au niveau chimiothérapie. Il me dit que ça peut être héréditaire, qu'il faut faire attention plus tard peut-être aussi à mes enfants si j'ai des enfants. J'ai un frère jumeau, il me dit qu'il doit être hyper vigilant sur le type de cancer. J'ai demandé si j'allais mourir. C'est peut-être la seule réponse à laquelle il n'a pas répondu. C'est très solennel comme moment et je rentre vraiment à ce moment-là dans le vif du sujet. Je confie à ce moment-là mon corps, encore une fois, à la médecine et je demande juste une chose, c'est qu'on me sorte de là, qu'on me tire d'affaire. L'oncologue m'explique le protocole de chimiothérapie et à la fin me dit rapidement qu'il faut commencer la chimiothérapie dans les 15 jours. Je suis face à cet oncologue avec Loïs et je sais également que je pars en vacances quelques semaines plus tard et que je demanderai aussi la main de Loïs. Loïs ne le sait pas, l'oncologue ne le sait pas, donc je fais tout pour que on puisse décaler ce protocole de chimiothérapie pour partir en vacances avec Loïs et lui demander sa main.
Donc je regarde Jonathan en insistant d'un air de dire est-ce que tu es sûr de vouloir repousser cette échéance-là ? L'oncologue finalement accepte et donc là moi dans ma tête je comprends pas parce que pour moi la priorité c'est de soigner Jonathan. Les vacances, bien sûr que dans ces moments-là on en a besoin pour accuser cette nouvelle-là, accuser le coup, essayer de prendre un peu du recul et puis de souffler avant d'entamer le protocole qui va être lourd. Mais pour moi une semaine, c'était déjà suffisant et je ne comprends pas pourquoi Jonathan veut des jours supplémentaires. Donc, ça m'inquiète.
On part avec Loïs en vacances dans le sud de la France. Et au retour de ces 15 jours de vacances, je fais un petit détour par la Loire-Atlantique. Les parents de Loïs ont une maison de famille là-bas où elle va régulièrement chaque année avec ses parents, où je suis d'ailleurs allé plusieurs fois avec elle et avec une petite plage qu'elle apprécie et qu'elle affectionne tout particulièrement.
C'est un endroit que j'idéalise et que j'adore par-dessus tout. C'est là où j'ai fait mes premiers pas dans le sable. Donc, c'est vrai que c'est très symbolique pour moi, cette plage-là. Quand j'arrive sur la plage, j'entends de la musique au loin. Et donc là, au bout d'un moment, je découvre Jonathan au bord de l'eau avec un plaid, des fleurs séchées et puis de la petite déco comme j'aime installée sur la plage. Il me tend la main et puis pour que je vienne vers lui. Il me dit la vie c'est comme cet océan, il y a des vagues et là en ce moment on est en train de surmonter une grosse vague, mais après la vague il y a des moments de calme. Il me dit qu'il sait qu'il pourra compter sur moi justement dans les bons comme dans les mauvais moments et donc il me demande si j'accepte de devenir sa femme. À ce moment-là, j'accepte sans hésiter. Je suis émue parce que déjà de la demande en elle-même, on avait pour projet de se marier, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse à ce moment-là. Je trouvais justement le moment super bien choisi, puisque ça avait toute une symbolique derrière et c'était vraiment un engagement fort. Et je savais que pour lui, enfin, c'était aussi très très fort ce moment-là de me demander ma main sans finalement connaître l'avenir, sans pouvoir se projeter comme on pouvait le faire auparavant finalement.
Je rentre de vacances, je sais ce qui m'attend. Deux jours après, j'ai un rendez-vous pour une seconde opération qui se fait en anesthésie locale. Il s'agira là de poser le cathéter, donc c'est une chambre implantable. J'explique donc que c'est un moyen de faire passer la chimiothérapie. C'est un petit appareil, un petit boîtier qu'on vous place au niveau du thorax. Et c'est ici qu'on administre la chimiothérapie. C'est un moment que je redoute parce que c'est une chirurgie. C'est une chirurgie qui est en anesthésie locale. On va me brancher d'un côté jusqu'au cou, de l'autre côté jusqu'au cœur. Rien que de l'imaginer, j'angoisse et effectivement, c'est ce qui m'arrive. Je fais une crise d'angoisse sur la table d'opération, à tel point que le corps médical est obligé d'arrêter l'opération et de m'administrer un médicament pour me calmer. Toutes les conditions sont réunies. J'ai un casque de réalité virtuelle où je me balade sur une plage, cette fameuse plage où je demande la main de Loïs. Mais rien n'y fait, je suis pris par les émotions et par l'angoisse. J'ai deux jours de répit, le temps de désinfecter ma plaie, et puis je commence le lundi ma chimiothérapie, le premier cycle donc d'une semaine, où je sortirai le samedi. J'arrive à l'Institut de cancérologie de Lorraine. On me donne ma chambre d'hospitalisation. C'est une petite chambre avec un lit, une télé et une salle de bain. Le minimum donc pour passer un petit séjour en hôpital. Je pleure toutes les larmes de mon corps quand je pose mes bagages sur le lit. Je prends conscience que j'ai un cancer, que je vais avoir une chimiothérapie. J'ai peur, c'est l'inconnu pour moi. Je me demande si je vais sortir vivant de cette chambre. Je me sens à ce moment-là seul au monde, dans une pièce, avec une télé. Je n'ose même pas toucher à la télécommande pour me mettre une chaîne. C'est le vide, je ne déballe même pas mes affaires. Je suis assis au bord de mon lit et je pleure et je dois reprendre mes émotions rapidement parce que les infirmières arrivent et m'expliquent comment va se passer la chimiothérapie, comment je vais être piqué au niveau de mon cathéter, quels vont être les effets peut-être indésirables de la chimiothérapie. On m'explique vraiment tout l'envers de ce mauvais décor.
Là, bah, je le retrouve perfusé un peu de partout avec des poches de liquide. En fait, c'est les médicaments de la chimio qu'il a en intraveineuse. C'est pas évident de le voir dans ce contexte-là. C'est là où je réalise un petit peu qu'il est malade. Au moment de partir, il tient à me raccompagner en bas de l'hôpital. Il me suit avec ses petites perfusions à coulisser derrière lui. C'est très dur parce que je repars toute seule sans lui. Et donc là, je sens que les larmes commencent à monter et je tourne vite fait les talons pour pas pleurer devant lui, pour pas craquer devant lui. Surtout que comme c'est la première chimio et la première nuit qui passe tout seul, je veux pas que lui ressente ma tristesse, mais plutôt mon encouragement.
Loïs vient me voir pratiquement tous les jours, pour pas dire tous les jours, à la fin de sa journée de travail, pour passer un peu de temps avec moi. C'est des moments qui sont courts parce que, dans le contexte de la crise sanitaire, les visites sont limitées en durée, mais puis aussi en passage. Je prends cette heure avec Loïs qui me ressource à la fin de mes journées, mais aussitôt qu'elle part, je fonds en larmes.
Quand je rentrais, donc j'avais quand même une heure pour rentrer chez moi en transport en commun. Donc voilà. D'ailleurs, pendant cette heure-ci, je rappelle Jonathan, alors que je viens tout juste de le laisser à l'hôpital. Mais voilà, ça me permet de l'avoir toujours avec moi, finalement, comme s'il était présent à mes côtés. Et puis, qu'on maintienne un quotidien ensemble. Donc, il m'expliquait un petit peu ce qu'il avait mangé, etc. Et donc, moi, je rentre. J'ai pas forcément faim, mais bon, je me nourris quand même pour essayer de pas me laisser abattre, en fait, de pas me laisser aller. Et encore une fois, de rester forte pour pouvoir accompagner Jonathan jusqu'au bout. Mais je m'octroie quand même un petit moment dans la semaine, un soir par semaine, je ne vais pas voir Jonathan à l'hôpital et je fais une séance de sport. C'est difficile parce que je pense que je suis égoïste, mais j'ai pas le choix pour pouvoir décompresser et éviter de craquer et de m'effondrer et de pas être forte pour Jonathan.
Je n'ai plus la maîtrise de mon corps, de mes émotions. Je tombe dans une dépression. Heureusement, toutes les conditions sont réunies à l'Institut pour m'accompagner aussi sur ce sujet-là psychologique. Je rencontre un psychiatre qui me propose aussi un protocole médicamenteux. Donc, je suis à l'hôpital avec une chimiothérapie et un traitement médicamenteux d'antidépresseurs. Alors, on est dans un hôpital où je sais que toutes les chambres à côté de moi sont des patients qui sont atteints de cancer, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quel que soit leur cancer. C'est un service où il y a de la chimiothérapie tous les jours. Il y a un étage qui est dédié aux soins palliatifs. Et n'empêche que il y a aussi des personnes autour de moi dans des chambres qui sont là et qui ne sont plus là du jour au lendemain. Et je comprends que ce sont des personnes qui sont malheureusement parties.
Lorsque je rentre chez moi, je le rappelle encore une fois et je le mets en haut-parleur pour pallier à son absence. Quand j'entends sa voix dans l'appartement, j'ai l'impression qu'il est avec moi, qu'il loupe pas mon quotidien. Et puis, on se raconte un petit peu ce qu'on regarde à la télé. Des fois, on regarde le même programme, donc on discute du programme comme s'il était à côté de moi sur le canapé, finalement.
Dans le service, je vois des jeunes, je vois des moins jeunes. Et je demande aux infirmiers, je demande qu'il y a des jeunes qui ont le même cancer que moi. Et on me dit qu'il n'y en a pas en ce moment, mais que ça arrive, mais qu'il y a des jeunes pour d'autres cancers.
Je suis actuellement surveillante et secrétaire de vie scolaire dans un lycée. Je suis plus fatiguée et un peu plus sur les nerfs que d'habitude. Et il y a certains élèves qui me poussent à bout, qui me posent des questions. Et je finis par en parler à deux, trois élèves avec qui je sens que je peux aborder ce genre de sujet. Et j'en profite pour faire de la prévention, notamment auprès des garçons, puisque c'est un cancer qui peut survenir à l'âge de 15 ans. Donc là, je leur annonce que mon conjoint de 32 ans a un cancer. Et donc là, ils sont tous surpris. Et j'ai tout de suite leur attention. Ils me questionnent beaucoup et m'apportent eux-mêmes leur soutien et les encouragements par rapport à ce que je traverse.
On est un matin à l'hôpital. Je me réveille et j'aime la lumière. Et je vois des cheveux et puis de la barbe sur l'oreiller. Je comprends tout de suite que je suis en train de perdre ma pilosité, cheveux et barbe. Il me suffit de toucher mes cheveux, ma barbe, de tirer légèrement et tout part dans mes mains. J'appuie sur la sonnette de mon lit pour faire venir les infirmières. Elles sont très vite là et je leur explique en pleurant que je suis en train de perdre tous mes cheveux. Et aussitôt, elles me rassurent. Elle me dit que c'est normal, c'est l'effet de la chimiothérapie. On est dans la salle de bain de ma chambre et l'infirmière me rase avec une tondeuse les cheveux, la barbe. Je ne me mets pas face au miroir et je lui demande de me tenir la main et de se retourner vers le miroir avec moi. Puis là, je me découvre chauve, sans barbe. Moi qui aime prendre soin de moi, me coiffer, prendre soin de ma barbe, me faire un brushing le matin, je n'ai plus rien, je suis métamorphosé physiquement. C'est pour moi extrêmement brutal. Je vis ce moment très très mal, avec gravité. Je mets du temps à accepter ce changement physique. Je me calfeutre, je mets une casquette que je porte tout le temps dans mon lit, à l'extérieur, dans le couloir. Je quitte jamais cette casquette, qui est pour moi mon accessoire, puis il me permet de me cacher un petit peu de cette maladie. Je termine mon protocole de chimiothérapie, en tout cas mon dernier cycle, donc fin octobre. On arrive au bout du traitement, mais je ne sais pas si je suis guéri. Je refais une batterie d'examens, de tests, de scanners, etc. Et j'attends évidemment le moment où je rencontre l'oncologue pour qu'il m'annonce si oui ou non le protocole a fonctionné. Je fais le dernier scanner donc d'imagerie qui permettra à l'oncologue d'analyser si je suis en rémission totale ou non, ou s'il faut continuer la chimio ou s'il faut opérer. Et donc voilà, c'est le scanner de la dernière chance pour moi. Je rencontre l'oncologue peu de temps après ce scanner. Les jours sont interminables en attendant ce rendez-vous. Je le vois arriver dans ma chambre d'hôpital puisque j'ai entamé une toute dernière dose de chimiothérapie pour finir. Il rentre dans ma chambre et il me dit d'emblée, vous êtes guéri. Et là, je pleure de joie. Non plus de tristesse et de malheur et d'angoisse, mais de joie, que j'arrive pas à y croire. Je crois qu'il est encore dans la chambre que j'appelle mes proches pour leur dire que je suis guéri. C'est un délivrement, c'est un soulagement. Et je garde beaucoup d'humilité parce que je sais à ce moment-là, vraiment, que je suis dans cette chambre et qu'à côté de moi, il y en a d'autres qui se battent encore pour le cancer. Et je retrouve cette, ce côté tourné vers les autres où voilà, moi je suis guéri, mais je pense aux autres qui se battent.
Pour les premières sorties, comme Jonathan est fatigué, bon, tout simplement, on décide d'aller en course pour acheter des aliments qu'il n'a pas pu manger lorsqu'il était à l'hôpital et essayer de lui faire plaisir. Rien que de faire une sortie, finalement, qui est anodine quand on n'est pas dans la maladie. Pour nous, c'était extraordinaire de ressortir main dans la main et de se retrouver dans un supermarché à choisir des aliments.
Les premiers jours, ça se passe merveilleusement bien. Je me fais une rétrospective des semaines et des mois passés. Je me dis que je suis sur ce canapé là aujourd'hui, debout. J'ai un contre-coup et pendant toute la durée du traitement, j'ai été dans un. C'était un véritable ascenseur émotionnel. Je suis passé par toutes les émotions, la colère, les angoisses, la peur. On m'annonce que je suis en rémission, je devrais plutôt sauter de joie et vivre à 200%. Mais je m'aperçois que le retour à la vie, il est difficile et qu'on est confronté à tout ce qu'on a traversé, de ce qui m'est arrivé, de peut-être que demain en me levant, avec des images, des réveils nocturnes, un cathéter qui vous rappelle physiquement que vous avez le cancer. Vous faites vraiment une rétrospective et puis vous retombez dans une forme de dépression.
Il rentre dans une forme de dépression parce que jusqu'ici, il s'est laissé porter par l'équipe médicale, par les médecins, par les infirmières, etc. Il suivait juste les indications à prendre ce genre de médicaments-là, à manger tel type d'aliments. Et là, il se retrouve un peu lâché dans la nature. Il réalise un petit peu ce par quoi il est passé. J'essaye de le rassurer, en fait, et de le projeter encore une fois et de lui apporter des ondes positives et de lui dire que c'est normal qu'il ait ce contre-coup-là.
Le retour à la vie, c'est aussi un retour à la vie dans le quotidien d'un couple, c'est-à-dire de sexualité aussi, qu'il faut aussi appréhender à nouveau. C'est vrai que c'est un moment que je redoute particulièrement parce que mon corps a changé, parce que les sensations ne sont plus les mêmes depuis mon opération, parce que j'ai cette prothèse testiculaire, parce que je n'ai plus de rapport sexuel depuis plusieurs mois, en tout cas depuis la chimiothérapie, depuis que j'ai appris que j'ai un cancer, donc il faut se réapproprier son corps. Les premiers moments intimes sont une redécouverte du corps. Dans une zone où on perd totalement de sensibilité, moi je passe par la méthode de l'acceptation. C'est comme ça, il n'y a plus de sensibilité. Il en reste d'autres sur d'autres endroits du corps, notamment sur l'autre côté. Et il suffit d'en informer, d'échanger un peu avec sa partenaire pour lui dire que là c'est moins sensible. Puis ça fait partie d'une rééducation entre nous de niveau sexuel. Et puis on est rassuré que tout fonctionne bien, qu'on a tous les deux du plaisir, que cet épisode est derrière nous.
Donc on a pu retrouver une intimité, mais encore une fois, j'ai dû le rassurer. Il n'avait pas confiance en lui, il se posait beaucoup de questions par rapport à sa prothèse, si techniquement ça allait toujours fonctionner, s'il allait pouvoir procurer du plaisir, si lui allait pouvoir ressentir du plaisir. Donc moi, je le rassure à ce moment-là et je lui dis que oui, c'est sûr que ce sera différent, mais ça ne change pas, c'est pas le testicule qui va faire qu'on ait moins d'intimité on apprend à se réadapter par rapport au changement physique, mais finalement rien n'a trop changé. On se réadapte, mais finalement assez facilement.
Ça a accéléré pas mal de choses, cette maladie, parce que même si on pensait avoir des enfants un jour, cette maladie, elle me fait voir les choses différemment. Elle accélère beaucoup de choses. Je parle d'enfants, mais je parle de changement de voiture, je parle de déménagement, je parle de... Sur plein de sujets, on a envie d'aller plus vite, d'accélérer, de ne plus perdre de temps, parce que je crois que j'en ai assez perdu.
On a revu un petit peu nos priorités dans les projets. C'est vrai qu'on voulait se marier et ensuite avoir des enfants, mais là, aujourd'hui, on privilégie plus le projet bébé, puisque la maladie a potentiellement altéré la capacité des spermatozoïdes de Jonathan. Donc, on ne sait pas si on peut avoir un enfant naturellement. Tant qu'on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc c'est pour ça que si jamais on ne peut pas réussir à en avoir un naturellement, on aura recours à l'insémination avec les paillettes que Jonathan a cryoconservées.
Ça m'a donné envie de m'engager dans la lutte contre le cancer en général. Je parle de tous les cancers, Je connais mieux mon cancer et ses particularités, ses spécificités. La première, c'est l'âge. Ça touche une population jeune. J'ai du mal à imaginer qu'un jeune de 15 ans puisse se palper spontanément les testicules. Et quand bien même s'il ressentait quelque chose d'anormal, je l'imagine pas en parler forcément à ses parents spontanément le soir en rentrant de l'école, ou à 16-17 ans en parler à sa copine. Donc je pense que là, c'est un mal pour un bien. J'ai envie de porter le message, de dire que ce cancer-là, il existe, et sensibiliser autour du cancer.
Si je dois donner des conseils à une personne qui doit traverser la maladie en tant qu'accompagnante, comme j'ai pu le faire, je lui dirais... Que ça va pas être évident parce que toute l'attention va être portée sur la personne qui est malade. Forcément, elle va être au centre des attentions. On va toujours demander de ses nouvelles et pas forcément de nos nouvelles. C'est dur, même si on comprend le pourquoi. Mais des fois, ça fait du bien qu'on nous demande aussi de nos nouvelles parce que finalement, c'est pas évident non plus ce par quoi on passe. De rester fort, d'essayer de pas craquer devant la personne malade parce que c'est pas ce qu'elle attend, et de se montrer fort et positif justement pour encourager la personne malade. Mais justement, pour pouvoir être fort, il faut aussi être soi-même bien entouré, avoir des moments où on peut craquer, on peut vraiment lâcher prise, et puis qu'il y ait des personnes qui soient là pour nous réconforter et nous dire que ça va aller, et qu'on est là pour nous aussi.
Loïs, ça a été une vraie béquille, ou alors une bouffée d'oxygène pendant ce traitement. Elle m'a inondé d'amour et de soutien. C'est difficile parce que les rôles pendant plusieurs mois ont été inversés. Je sais qu'elle pleurait quand elle n'était pas avec moi et quand elle repartait, certainement après m'avoir vu à l'hôpital. En tout cas, c'est vrai que je l'ai su un peu plus tard, de la voir se déplacer après le travail pour venir me voir, etc. De donner finalement tellement d'énergie et de pleurer comme ça en cachette parce que je n'allais pas bien, ça m'a fait beaucoup de peine. J'en suis aujourd'hui très 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 reconnaissante parce que sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Capucine Rouault. Lucie Lossel était à la réalisation et la fugitive au mix. Cet épisode a reçu le soutien de la Cité des sciences et de l'industrie. Vous pouvez y découvrir Cancer, une exposition très complète sur la maladie. Et y découvrir comment les cancers se développent, pas seulement chez les humains, mais dans tout le monde animal. Où en est la recherche, ce que vivent les malades et leurs proches, et où en sont les politiques de prévention, jusqu'en août 2023. À très vite.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.